c'est Explose le cadre, le podcast qui booste votre niveau de confiance pour vous aider à prendre votre place. Chaque mois, je questionne des femmes inspirantes que je nomme affectueusement les parfaites. Ces femmes qui ont su dépasser leurs peurs, s'affranchir du regard des autres et gravir des montagnes pour réaliser leurs rêves. Elles partagent avec nous leur vécu, les expériences marquantes de leur vie et leurs meilleurs conseils. Explose le cadre, c'est plus qu'un podcast. C'est un show enrichissant et divertissant qui vous aide à passer concrètement à l'action pour devenir une femme plus confiante, forte et audacieuse. L'objectif ici est de revisiter nos croyances limitantes pour littéralement exploser notre cadre. Ici, pas de chichi, nous sommes là pour bâtir notre avenir et concrétiser nos rêves. Alors, c'est parti! Moi, c'est Christelle. J'ai créé ce podcast avec pour ambition de vous faire sortir de votre coquille et de vous aider à vous reconnaître et à considérer vos valeurs. J'ai, depuis ma plus tendre enfance, manqué cruellement de confiance en moi et d'estime de moi. Mon jeu préféré était celui de la souris. Vous savez, la fille qui rêve d'être invisible aux yeux des autres. Mais pas facile quand on a un profil atypique. Je me dévalorisais sans cesse et me jugeais durement, que ce soit physiquement comme intellectuellement. Mon dicton préféré était « Je suis trop nulle ». Mais j'ai depuis eu la chance de découvrir à l'âge de 11 ans le développement personnel au travers de la sophrologie. Et je dois dire que ça a transformé ma vie. Après des années et des années de travail sur moi, je suis de plus en plus sensible à la souffrance des femmes qui m'entourent et qui vivent encore ce sentiment dévastateur. Aujourd'hui, je souhaite synthétiser tous ces apprentissages au même endroit et sous une forme ludique, mais surtout sans prise de tête. Voyez cette capsule comme un bon moment entre amis, un bon verre à la main et une ambiance musicale funky. Alors maintenant que le cadre est posé, je vous propose de commencer. L'épisode numéro 1. En première partie de cet épisode, nous recevrons notre invitée spéciale, Cécile Minot. En deuxième partie, mon acolyte Sylvain, coach de vie, nous présentera son avis et ses conseils pour appliquer dès aujourd'hui les enseignements prodigués par notre invitée. Et enfin, je conclurai sur la rubrique plan d'action dans laquelle je vous propose des étapes claires et simples à mettre en œuvre en attendant l'épisode du mois prochain. Alors n'attendez plus et comme le disait Oscar Wilde, agissez et prenez votre place parce que les autres sont déjà prises. Bienvenue Cécile et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Christelle, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui.
Eh bien, bienvenue. Et pour commencer et se mettre dans le bain, j'aime bien commencer mes interviews par ce que j'appelle couramment prendre la température. Mais là, en réalité, c'est plutôt une prise de confiance, si je puis dire. Alors Cécile, sur une échelle de 1 à 10, quel est ton niveau de confiance là, maintenant ? 1 correspond à une absence, ou presque, de confiance, et 10 à une explosion de confiance.
Ah, je crois que je suis autour de 8-9.
Cool!
Ouais!
Génial! Donc, pas effrayée par l'exercice, tu es rodée.
Non, mais je le prends comme un jeu et puis j'aime bien ton énergie, donc je sais qu'on va passer un bon moment.
Pour commencer et pour continuer à se mettre dans le bain, keep cool, je te propose de commencer par un portrait chinois. Première question, si tu étais un élément.
Le vent.
Si tu étais une pièce de la maison.
La cuisine. Alors, il y a ce que je préfère, mais je pense que ça me correspond plutôt bien aussi.
Si tu étais un livre.
Peut-être un livre dont vous êtes le héros, avec plusieurs possibilités.
Si tu étais un dessin animé.
Ah, bonne question. Je vais dire Kiki, la petite sorcière.
Si tu étais une mauvaise habitude.
La flemme.
Si tu étais un paysage.
Alors, je suis en train de chercher un paysage, un grand espace, parce que j'ai besoin d'avoir de la liberté de me projeter. J'avais le Grand Canyon, mais c'est trop linéaire pour moi. Il faut plein d'autres détails. Donc, ça serait peut-être plus une forêt, mais en montagne, tu sais, avec une grande vue dégagée.
Si tu étais un sport.
À la capoeira.
Et pour la dernière, au lieu de te poser la question, je vais droit au but et je réponds à ta place. Si tu étais un animal, pourquoi serais-tu le poulpe?
Alors, pour ceux qui ont l'image, je pense que vous l'avez derrière moi, et ceux qui sont en podcast, le poulpe, c'est pas l'animal le plus sexy au monde, mais effectivement, je crois que c'est l'animal qui me correspond le mieux parce que j'adore explorer plein de choses. Donc, avec ses tentacules, le poulpe explore plein, plein, plein de domaines complètement différents. Et il est quand même un peu intelligent, donc il arrive à se faire et à se défaire de toutes ses curiosités, toutes ses envies d'aller à droite, à gauche. Et quand on prend le poulpe et qu'on prend du recul et qu'on prend l'entité complète, bah, il arrive quand même à avancer dans une même direction. Et j'aime bien son côté, voilà, multi. Je vous laisse compléter.
Ok, pour continuer à te présenter, tu peux nous dire sur toi et qu'est-ce qui t'anime, j'ai envie de dire, sur cette vie, dans cette vie sur Terre?
Ce qui m'anime le plus, je crois que c'est de vivre des expériences, de découvrir des choses et d'avoir toujours l'envie de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, etc. Et ce que je fais sur Terre en ce moment, moi j'aide bah, les personnes à clarifier en fait leurs idées. Et bah, c'est un peu comme les home organizers que tu connais très bien, Christelle, bah, qui, on va dire, qui clean la maison, qui aide à trier, à ranger, à organiser à l'intérieur de la maison ou d'un placard, etc. Moi, je vais faire la même chose dans la tête des gens avec leurs idées, etc. Et bah, essayer bah, qu'ils trouvent vraiment les orientations, les idées qui les animent, qui leur correspondent, etc., pour pouvoir avancer vers leur vie, leur projet, peu importe l'environnement et peu importe les qu'en dira-t-on, et puis bah, de s'épanouir dans la vie, de kiffer la vie, tout simplement. Voilà.
Et dans ta vie, je sais que tu as eu différents parcours professionnels et je voulais savoir si tu pouvais en dire un peu plus sur ce parcours et justement ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui.
Alors, ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, je commence par la fin. C'est une problématique que j'ai eue longtemps, que j'ai encore un peu, mais vraiment beaucoup moins, parce que bon, en même temps, je venais de loin. C'est la prise de décision. C'était faire des choix dans la vie, et ça a commencé dès l'enfance. Voilà, au moment où il fallait choisir des orientations scolaires. Choisir, savoir ce que je voulais faire. J'ai voulu faire 1000 métiers. Je sais que dès le collège, quand on commence à s'interroger sur le choix du lycée, je m'interrogeais même à faire un bac musique. Quoi, j'hésitais entre le bac musique et le bac scientifique. Voilà, j'ai écouté un petit peu la raison, on va dire, c'est-à-dire l'environnement, les parents, les profs, etc. Et bah, je me suis orientée plutôt bah, vers le scientifique. Parce que d'une part j'avais les capacités et d'autre part en fait parce que on me disait bon bah ok ça va pas te fermer de porte voilà et je crois que pendant un moment j'ai opéré des choix comme ça en vue de ne pas me fermer de porte et de rester dans quelque chose de plus général possible pour pas m'enfermer et puis après ben j'ai hésité entre plusieurs métiers donc moi à la base je me destinais à être ingénieure et franchement je voulais à la sortie du lycée, tout faire sauf ça, mais je ne savais pas quoi faire. Je savais ce que je ne voulais pas faire, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et puis, donc, je me suis orientée vers la communication parce que j'étais vraiment intéressée par les interactions sociales. Je pense que tu peux comprendre pourquoi. Sur le fait de parfois d'avoir du mal à se faire comprendre, d'essayer de comprendre vraiment comment fonctionnait ça. J'ai fait une année de com, ça ne m'a pas du tout plu et je suis allée plutôt en sciences du langage et je me suis spécialisée dans mon parcours en psycholinguistique et interaction verbale. Voilà, donc j'ai adoré ça, mais bon, ça mène pas vraiment à un métier, mais j'ai adoré tout ce que j'ai appris pendant ces années-là. Et je me suis dit, bon, je veux pas faire de choix, donc Instit, c'est pas mal, parce que je fais un peu de tout, des maths, de l'histoire, de la géo, de la musique, du dessin, etc. Je suis finalement devenue prof, alors plus de français langue étrangère, français tout court, français langue étrangère et remédiation. J'ai fait ça quelques années, j'ai adoré, mais j'ai moins aimé l'éducation nationale pour différentes raisons. Voilà, en parallèle, parce que moi, j'ai toujours fait des activités aussi en parallèle, je faisais de la capoeira. Et c'est pareil, on a commencé à me solliciter pour donner des cours de capoeira, etc. Et donc, c'est vrai que toute ma vie, ça a été ça. Ça a été de choisir entre différents parcours. Et puis, arrivé à la veille de mes 30 ans, j'ai eu peur. Voilà, j'ai flippé, clairement, en me disant, mais j'ai envie de tester des choses et c'est maintenant qu'il faut que je les teste parce que... pas parce qu'il est trop tard, parce qu'il n'est jamais trop tard pour tester de nouvelles choses, mais vraiment parce que je me disais, là, j'ai aucune contrainte. J'ai pas d'enfant, je peux prendre des risques, j'ai pas de projet. Quelles seront les conséquences et quoi, ça sera quoi le pire, en fait, d'essayer? Et moi, j'avais peur de regretter toute ma vie de ne pas avoir essayé. Donc, j'ai repris une formation dans le commerce et spécialisée donc dans la conception et la commercialisation de jeux et jouets avec une idée en tête d'ouvrir une entreprise de peluches et d'objets de déco. Donc, rien à voir avec tout ce que j'avais fait avant, mais j'avais vraiment besoin de faire quelque chose de créatif, en fait, et moins d'intellectuel. Et puis, au bout de 3 ans, j'ai rebondi. Ça n'a pas donné ce que je voulais. En fait, je me suis rendu compte que j'arrivais à une limite du développement de l'entreprise et je voulais pas aller plus loin, quoi. Le sens dans lequel je devais aller, ça ne m'intéressait pas. Et je suis revenue donc à mes premiers amours, la pédagogie, parce que j'ai toujours aimé ça et surtout les pédagogies alternatives. Et donc, j'ai fait différentes choses, coach, et j'ai aidé aussi des entrepreneurs à designer leur formation. J'ai travaillé aussi avec des coachs et des entreprises, voilà, donc notamment des coachs de e-sport, à transmettre leur expertise. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que ce que je faisais, in fine, le point commun dans tout ce que je faisais, c'était d'aider les gens à faire des choix, à trier leurs idées, quand ils venaient avec des fois une carrière de contenu, d'expertise, etc. Bah, finalement, je les aidais à faire le choix, à prendre des décisions, à trier toutes leurs idées, etc. Et en fait, bah, finalement, je n'ai gardé que ça aujourd'hui. Voilà, et j'aide les personnes à trier, comme je le disais tout à l'heure, leur brouhaha, voire leur bordel, disons-le franchement, mental, voilà, et les aider à y voir plus clair et à réussir à ouvrir des perspectives pour l'avenir, parce qu'effectivement, quand on est encombré, que ça soit physiquement ou mentalement, c'est difficile d'y voir plus clair et de pouvoir avancer. Voilà, donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je ferai dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, et j'aime beaucoup cette idée-là que tout n'est pas écrit d'avance, tout n'est pas tracé, et la liberté de pouvoir changer un jour si j'en ai envie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'éclate dans ce que je fais. Voilà, j'adore ce que je fais, j'adore ça tous les jours, et ça répond à énormément de besoins que j'ai, que ça soit d'un côté intellectuel, l'autre côté créativité, etc. Et aujourd'hui, je fais ce que j'aime faire du mieux que je peux. Et parce que j'aime le faire, je deviens bonne, encore meilleure, et je sais que ça va continuer à s'améliorer. Voilà. Je continue à adorer les peluches, mais aujourd'hui, je m'éclate dans d'autres choses. Et la Cécile de demain s'éclatera peut-être encore dans d'autres choses. Et c'est aussi ça, la vie, et être farpette, comme tu dis. C'est aussi d'accepter qu'il y ait des choses qui soient temporelles. Et dans la prise de décision aussi, c'est d'accepter qu'il y a des choses qui sont vraiment cool à une période de notre vie. On adore, ça nous éclate.
Quel conseil, en fait, tu pourrais donner sur comment développer sa créativité ou au contraire l'activer, parce qu'on entend souvent ben moi je j'ai pas de créativité, je sais pas, enfin voilà. Est-ce que tu aurais un conseil à nous donner pour l'activer ou la développer, cette créativité?
Ben, peut-être que la première des choses, ça serait d'arrêter de dire que vous n'avez pas de créativité. Parce que, en fait, vous en avez tous. Après, c'est pas forcément sur les mêmes sujets ou les mêmes domaines d'activité. Donc, beaucoup de personnes me disent « j'ai pas de créativité ». En fait, ils l'associent vraiment à la créativité artistique. Alors que la créativité, ben, finalement, c'est quoi ? C'est de réussir à trouver des solutions à des problèmes. Donc, il y a effectivement la créativité artistique qui est là dans de la création pure et dans partir sur l'imagination, etc. Et puis, il y a tout ce qui est créativité aussi, bah, générer des idées, générer de nouvelles idées, etc. Donc là-dessus, moi, je n'ai rencontré personne qui n'a jamais eu aucune idée dans sa vie. Donc, vous êtes tous créatifs et effectivement, je vois des gens qui la bloquent. Donc, la première des choses à faire, c'est déjà de ne pas la bloquer et puis de la laisser s'exprimer. C'est-à-dire que quand certaines personnes ont des idées un peu folles, voilà, bah, tout de suite, ils ont tendance à la bloquer et à se dire « ah non, mais je suis folle » ou « ah, je ne peux pas en parler », etc. Donc, ça, c'est la première des choses, c'est laisser parler votre imagination, laisser parler votre créativité. Et la créativité, ce n'est pas forcément de la création de quelque chose, c'est aussi, bah, je ne sais pas, vous devez faire passer un meuble dans une porte, bah, vous pouvez faire preuve de créativité. Voilà, certains sont très bons là-dessus et ils ne vont pas forcément se définir comme créatifs, mais pour réussir à faire passer le piano par la fenêtre, voilà, en trouvant des moyens original pour y parvenir. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, je dirais, ne jugez pas vos idées. Parce que on a trop tendance à juger ses idées et à s'auto-censurer, en fait, dès le départ, en se disant « ah, c'est pas une bonne idée ». En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée. Il y a des une bonne idée, c'est celle bon, bah, qu'on va implémenter, qu'on va tester, et puis bon, bah, on va voir ce que ça donne. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée en soi, il y a des idées à tester, il y a des idées aussi qui sont faites pour rester des idées. Voilà. Il y a des idées qui sont là pour amener à une autre idée, qui là est réalisable, on va dire. Et puis, il y a des idées qui vous permettent juste d'être libre, de vous évader, de rêver, etc. Et bon bah voilà, il y en a peut-être plein qui rêvent de voler, donc qui imaginent des machines pour voler. Et il y en a bah, qui travaillent dessus et qui arrivent à concrétiser différentes manières de permettre à l'homme de voler. Et puis d'autres personnes, ben juste le fait d'avoir ce moment-là, un peu onirique, de plénitude, un peu zen aussi, eh bien c'est largement suffisant. Donc les deux premiers conseils que moi je dirais vraiment, au-delà des outils, etc., c'est vraiment ben, de laisser aller vos idées, de les faire vivre, mais rien que en les laissant être, ben, vous les faites vivre à votre manière et ne vous censurez pas et ne les jugez pas, surtout pas.
Effectivement, le jugement, c'est quelque chose qu'on a tendance tous à faire. Et justement, en parlant de ça, je sais que ce qui t'a vraiment fait déclic, c'était la peur de regretter. On a beaucoup de peur en général, on vit au travers de beaucoup de peurs, que ça soit la peur bah, justement du jugement, du regard des autres, des peurs financières, de ne pas avoir assez, etc. Quelles ont été en fait toutes ces peurs qui émergeaient en toi quand tu as dû justement sauter bah, d'une profession qui était quand même stable fonctionnaire en France, on adore être fonctionnaire en France, à l'entrepreneuriat. Donc, quelles sont toutes ces peurs et comment tu les as surmontées au final ?
Je crois que les deux plus grandes peurs étaient par rapport au regard de l'autre et notamment de ma famille, de mes proches. Et la deuxième peur, c'était alors non pas de réussir, mais c'était plus quelque chose vis-à-vis de moi-même. Comment j'ai dépassé la peur toutes les peurs finalement que j'avais. J'avais pas la peur, par exemple, de ne pas réussir. J'avais pas la peur d'échouer. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément. Mais effectivement, quand on se lance, on a envie de réussir. Et en fait, moi, j'avais plus peur quand je disais par rapport à moi-même, par exemple, de me décevoir ou des choses comme ça. Voilà. Et j'ai eu par exemple des peurs par rapport à la vente, parce que bah, j'avais tout, toute une idée, donc j'avais peur d'arnaquer les gens, ou, etc. Et donc, j'avais peur, quand je dis de me décevoir, c'était par exemple de basculer du côté obscur, de devenir un requin, etc. Donc, toutes ces peurs-là, on va dire, c'était plus des peurs de moi vis-à-vis de moi-même et de l'image que moi, j'ai envie d'avoir de moi-même. Comment j'ai dépassé toutes ces peurs finalement, en fait, ça s'est fait en trois étapes. La première, ça a été de comprendre qui j'étais, comment j'étais et qui je voulais être surtout. Déjà, comment je fonctionne, parce que bon, j'ai aussi un mode de fonctionnement atypique. Et puis, qui j'ai envie, moi, d'être. Parce que pendant toute notre vie, en fait, on nous colle des étiquettes et on finit par presque s'auto-persuader qu'on est ça, alors que on peut changer, on peut évoluer, etc. Et pour les personnes qui, comme moi, écoutaient beaucoup les autres, c'est-à-dire que quoi, j'ai toujours pris beaucoup en compte, en considération l'autre, etc. C'est vrai qu'on se construit à travers des images qu'on nous renvoie, des étiquettes, etc. Pardon. Et en fait, j'ai compris qu'il fallait que je me détache de mon moi du passé et que je me concentre plus sur le moi que j'ai envie d'être et mon moi du futur. Voilà. Et donc, comprendre comment je fonctionne, les choses donc, qui ne bougent pas trop, décider et comprendre qui j'ai envie d'être et décider d'être cette personne-là, ça, c'était la première étape. La deuxième étape, ça a été d'accepter pour moi qui j'étais. Parce que bon, on peut comprendre deux, trois choses, de se dire, ok, je fonctionne comme ça, tiens, j'ai eu ça m'a accompagné toute ma vie, etc. Qu'est-ce qui, à l'intérieur, a été important pour moi, etc. Et c'est encore autre chose de l'accepter. Voilà, de se dire, en fait, je suis comme ça, je suis pas parfaite, je suis une farpette, j'ai ce côté-là, je peux avoir des côtés sombres, je peux avoir des côtés, au contraire, lumineux. Voilà, et d'accepter aussi qui j'étais, de me regarder en face et d'accepter pour moi qui j'étais. Et la troisième étape, c'était de l'assumer, donc vis-à-vis des autres. Et ça a changé, mais véritablement, toute ma relation par rapport aux peurs. Aux différentes peurs. Donc, par rapport, par exemple, à l'entourage, et je sais que ça, c'est une très grosse problématique, à partir du moment où, tu vois, quand tu changes beaucoup de travail comme ça, eh bien, on peut te renvoyer l'image de quelqu'un d'instable. Et tu peux presque finir par y croire ou dire, non, mais bon, je ne suis pas normale, il faut quand même que je trouve un CDI. Alors que je crois que, aussi loin que je puisse remonter dans mes souvenirs, j'ai pas de souvenir de vouloir un travail stable et un CDI. Au contraire, je crois que c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur. Mais en tout cas, on finit quand même par intégrer toutes ces choses qui viennent de l'environnement. Et en fait, quand je l'ai assumé vis-à-vis des autres, eh bien, quand on me disait ça, « Ah oui, mais t'as encore changé, etc. » ou « Ah bah tiens, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?» sous-entendu, trois petits points. Quand je répondais « Ah bah, en ce moment, je fais ça. Ah oui, machin. Ah ouais, et je kiffe ce que je fais. » Eh bien, ça a complètement changé toute la relation. Et même, par exemple, je vois avec mes parents et notamment ma mère, qui s'inquiétait beaucoup de se dire, est-ce qu'elle va réussir à trouver cet équilibre-là? Quand je l'ai complètement assumé, eh bien, et que je lui ai dit, mon équilibre, il est là. Moi, je trouve mon équilibre dans ce mouvement, en fait. C'est dans le mouvement que je trouve l'équilibre. Si je m'arrête ou si je fais toujours la même chose, je vais me rendre malheureuse. Et c'est comme ça que je kiffe ma vie et c'est comme ça que j'ai envie de vivre. Eh bien, elle l'a complètement accepté. Et ça s'est même retourné où je la vois de temps en temps envier mon style de vie et mon mode de vie et dire « Ah, c'est génial que tu puisses aller à l'autre bout du monde et travailler. Là, je vais bientôt... aller en Corée par exemple, mais je vais quand même continuer mes accompagnements, etc. Et aujourd'hui, tu vois, elle trouve ça génial. Ma situation n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est moi, le fait de l'assumer pour moi et de l'accepter pour moi et de l'assumer aux yeux des autres. Et ça, c'est quelque chose qui a complètement changé toute la relation avec mes peurs. Quelle est la Cécile que tu as envie d'être? Je voulais être cette personne qui soit fière d'elle. Et donc ça m'aide vraiment à dépasser mes peurs en fait.
Donc au final, quand on a des peurs, la meilleure solution, c'est de se confronter à ces peurs et d'y faire face.
Oui. Effectivement, c'est-à-dire que, parce qu'en fait, on disait tout à l'heure, tu vois, on parlait de créativité, et là, vous allez voir que vous êtes tous créatifs. Parce que pour imaginer tous les scénarios catastrophes, généralement, vous avez une créativité sans limite. Non, mais c'est vrai. Et en fait, souvent, on imagine des scénarios, mais tellement pires que ce qui arrive dans la vraie vie. Ça, c'est une première chose. Et effectivement, il y a des études qui ont montré que, par exemple, l'estime de soi, il y en a beaucoup qui se disent, je veux gagner de l'estime de moi. Et il faut que je gagne de l'estime de moi avant de me lancer, par exemple, dans un projet entrepreneurial. Et en fait, c'est en ayant des réussites, c'est par l'action et en ayant des réussites qu'on arrive à faire remonter l'estime de soi ou la confiance en soi. Et donc, quand on se confronte à nos peurs, en fait, c'est aussi apprendre à se regarder en face, à accepter et puis à mieux se connaître et se dire « là, j'ai raté », et essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire autrement? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux travailler? Et vous allez vraiment vous rendre compte que, in fine, dans la réalité, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins pire que ce qu'on peut imaginer dans notre cerveau, en fait.
Donc, identifier ses peurs et mettre une petite action derrière pour justement y aller, là, lui faire face et un pas à la fois.
Exactement. Et puis, pour les plus perfectionnistes d'entre vous, c'est aussi arriver à reconnaître à sa juste valeur ce qui est fait. C'est-à-dire que quand on fait l'action, en fait, au départ, dans notre cerveau, on s'imagine mais vraiment le pire. On le fait et puis finalement, il ne se passe rien de particulier ou de terrible. Ils disent, c'était juste ça. Et puis, on passe à la suite en se disant, c'est rien. Ou en minimisant, en fait, la victoire. Parce qu'on se dit, c'était rien. Je le mérite pas. Ou, c'est un tel qui m'y a poussé ou qui m'a aidé, etc. Et il peut y avoir cette tendance aussi à dévaloriser l'action et le résultat de l'action. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je vois très souvent. Et c'est un exercice aussi à faire et à se dire, peut-être que l'action en elle-même, elle n'est pas si dure que ça, mais pour moi, elle a été difficile. Et essayer de vous replonger au moment où vous n'arriviez pas justement à passer à l'action et dans l'état dans lequel vous étiez. Ce n'est pas forcément l'action dont vous allez tirer la fierté, mais justement d'avoir su dépasser ces états émotionnels ou ces peurs que vous aviez, et vous avez de quoi être fier et il faut célébrer. Ah oui, et il faut oser dire et franchement se la péter aussi vis-à-vis de soi-même. Franchement, je suis fière de moi, j'ai assuré, etc. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à le faire. J'avais souvent tendance à dévaloriser en fait mes actions en me disant ça m'a pas demandé trop d'efforts, ça a été facile, etc. Parce que l'action en elle-même, peut-être qu'elle a été facile pour vous, mais en réalité, c'est le combat avec vous-même qui a été difficile. Célébrez-le parce que vous avez de quoi être fier d'avoir vaincu vos petits démons, vos gros démons, etc. et vos différentes voix dans la tête qui vous disent « tu n'y arriveras pas » ou « tu vas te ridiculiser », « tu vas perdre la face », etc. « ta notoriété, elle va être détruite », etc. Donc, célébrer, c'est super important.
Ça me fait penser à un super exemple de Will Smith qui a dit que Dieu avait caché les plus belles choses derrière la peur. Et il en a parlé notamment juste après avoir fait son saut en chute libre pour la première fois et qu'il s'en faisait une montagne, qu'il n'avait pas dormi la veille, qu'arriver au bord du vide, il disait « mais c'est bon, je m'en vais, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Et qu'au moment de sauter, et ben là, c'est vraiment la porte qui s'ouvre et la beauté qui est là et la peur, il se dit « mais pourquoi j'ai eu peur aussi longtemps ?» alors que c'était rien. Et je trouve que cette image-là, elle traduit bien ce qui peut se passer dans notre tête au niveau des peurs.
Exactement. Et souvent, quand on a peur, c'est pour les choses qui sont importantes pour nous. Quand il y a un enjeu. Si vous avez peur pour certaines choses, à condition que ça soit un petit peu accompagné d'excitation, que vous ayez envie de le faire, c'est que généralement, vous êtes sur la bonne voie. Donc, écoutez-la, votre peur, ça va être une boussole aussi en vous. Vous dire, ce truc-là, il me fait peur. Mais j'ai une petite voix qui a quand même envie d'y aller, mais j'ai la peur. Donc, ça veut dire que il y a quelque chose à faire par là. Et comme tu viens de le dire, les plus belles choses sont derrière. Et moi, j'avais lu une citation, c'était de Jean-Louis Etienne, un explorateur, qui disait « On ne connaît pas ses limites, on les découvre. » Et c'est vrai que c'est en affrontant les peurs qu'on se rend compte que nos limites, elles ne sont pas du tout là où on s'imagine qu'elles sont. Et c'est comme ça qu'on les repousse à chaque fois, de plus en plus.
Justement, toi qui es experte en pédagogie, est-ce que tu aurais un jeu, une pratique ludique à nous conseiller pour gagner en confiance en soi, pour augmenter son confiance en, sa confiance en soi?
Ah, comme ça?
Hey, challenge.
Alors, c'est pas forcément un jeu, mais comme tu disais, le meilleur moyen en fait de dépasser ses peurs et de gagner confiance en soi, en fait, c'est en le faisant et en pouvant dire « I did it, je l'ai fait, ça y est ». Et je sais que pour certains, en fait, l'engagement vis-à-vis de soi, c'est compliqué. Et donc, ça peut être tout simplement de s'engager vis-à-vis de quelqu'un d'autre, de l'annoncer publiquement. Voilà, là, par exemple, tu as lancé tes podcasts. Et bah, de dire, bon, bah voilà, telle date, je fais mon podcast. Et puis, juste de le lancer, puis de partir en courant, si vous voulez, vous cacher. Voilà. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment vous aider à passer à l'action et donc, in fine, à gagner confiance en vous.
Ouais, se mettre en défi, en mode de challenge et comment dire, l'annoncer à ses proches, voire même à des inconnus si on est, si on a beaucoup d'abonnés sur nos réseaux sociaux. Et une fois qu'on a annoncé ça à tout le monde, ben, il n'y a plus qu'à. On ne peut plus se défiler.
Et après, vous pouvez commencer par une petite action, un petit pas après l'autre. Non pas que j'ai envie de vous partager l'idée de réduire vos ambitions, et ça, non, jamais. C'est juste, à chaque étape de son développement, eh bien, se donner un petit challenge qui est réalisable. C'est ce qu'on appelle les objectifs SMART, ou réalisables en tout cas. Et y aller et se dire, bon, OK, chiche, j'y vais, je suis cap. Et se détacher en fait de des résultats ou tout ce qui va se passer derrière, et juste de dire bon bah voilà, là voilà ce qui va me rendre fière de moi à la fin de la journée, c'est si j'ai réussi juste à faire le pas. Si vous saviez combien de fois je me suis vautrée en public, eh ben je suis encore là et je vous parle. Ah oui.
Bah oui, on connaît tous cette expression, le ridicule ne tue pas, et pourtant on a toujours peur d'être ridicule ou toujours peur qu'il nous arrive quelque chose, alors qu'effectivement, le premier pas est le plus difficile. Si je peux conseiller quelque chose, c'est vraiment dès que vous sentez une peur arriver ou que vous procrastinez sur un petit truc, dites-vous que c'est le premier pas et que ça va être le plus difficile, et programmez-le dans votre agenda et faites-le. Il n'y a plus qu'à.
Exactement. Et il faut pas se poser de questions à ce moment-là. Quand on a du mal, moi, je sais que je fais 3, 2, 1, top, et j'y vais. Comme ça, au moins, ça, je réfléchis plus, je le fais. Et puis, c'est en faisant, en fait, que tout le reste suit. Le plus difficile, c'est le premier pas. C'est vraiment la toute première micro-action. Et quand on décortique vraiment, parce qu'on se dit, ah, c'est un énorme pas, et quand on décortique vraiment tout ce qu'il faut faire, finalement, c'est pas grand-chose, c'est appuyer sur un bouton sur l'ordinateur, c'est l'action n'est pas si grande que ça, c'est juste nous qui nous projetons des choses terribles, terribles.
Oui, on rencontre beaucoup ça en home organizing, dès qu'on a un petit truc à ranger ou un placard, dès qu'on ouvre la porte, c'est tout qui tombe, on se dit mais j'y arriverai jamais au bout de ce truc, et au final, bah, ça prend 15 minutes et il est rangé le placard.
Exactement. Et puis c'est petit à petit, et c'est le premier vêtement ou le voilà, c'est le premier choix de vêtements, etc., qui va opérer. Et je trie mes 200 vêtements. Ah, voilà. Alors que tu dis bon bah voilà, on fait juste le tiroir. On va commencer par les chaussettes. On trie juste les chaussettes. Et puis une fois dedans, eh ben vous voyez que, ah bah non, en fait, ça suit, etc. Et puis après, il y a l'état d'esprit dans lequel on fait, et puis vous allez dire, bon, OK, de toute façon, il faut que je le fasse. Ça peut vous enquiquiner de ranger des chaussettes et dire, bon, bah de toute façon, il faut que je le fasse, autant que je prenne un maximum de plaisir à le faire. Et donc, c'est super important aussi le mindset, parce que vous allez sinon vous pourrir l'esprit avec ça. Et ça me rappelle des boulots de salariés où j'avais des collègues qui se plaignaient. J'ai dit, écoute, de toute façon, on est commencé à 8h. Viens, on rigole un peu. On passe, je sais pas, on fait 2-3 blagues, on rigole. Viens, parce que là, sinon, c'est pas possible. Et donc, c'est vraiment ça, se dire, bon, bah, ok, de toute façon, il faut que je le fasse. J'ai deux choix maintenant. Soit j'y prends plaisir, soit je souffre.
Oui, c'est super important dans tout ce qu'on fait de prendre du plaisir, de... Même si on n'aime pas bon, le cas du rangement, parce que c'est ce que je connais bien, si on n'aime pas ranger, eh ben, on se met dans l'ambiance. On met de la musique, on se prépare sa boisson chaude, j'en sais rien. On se met dans le move. Et voilà, et en prenant, comme tu dis, une paire de chaussettes, un vêtement, après, tout partira, tout va se découler tranquillement et de manière fluide.
Et tu sais de quoi tu parles quand tu dis ça.
Oui, oui, oui. Et pour celles qui connaissent un peu mon activité de booster en confiance, je prône tout le temps le jeu, le ludique, s'amuser, prendre du bon temps et keep cool, quoi. On se prend trop au sérieux, donc faut lâcher, et quand on s'amuse, tout est beaucoup plus fluide.
Exactement, parce que là, vous l'entendez en podcast, elle paraît comme ça, mais franchement, elle a un petit grain de folie, et je vous invite à aller vers elle pour découvrir son petit grain de folie.
Et justement, en début d'épisode, tu nous annonçais que tu avais un super niveau de confiance en toi à 8, oui. Ce qui est vraiment génial, et selon toi, quels sont les événements marquants de ta vie qui ont eu justement pour rôle d'augmenter ce niveau de confiance et quels ont été les événements déclics, par exemple, de ton enfance? Parce qu'en général, ça commence à vaciller dès cette période-là et qui t'ont vraiment fait passer à l'action et dire « c'est terminé, je fonce, j'y vais ».
Dans l'enfance, dans un sens, en fait, j'ai quand même eu la chance d'avoir une confiance en moi qui a été renforcée par plein de choses, par l'image qu'on me renvoyait aussi, par le fait d'avoir eu des bonnes notes à l'école. Du coup, les professeurs me renvoyaient aussi une image, quoi. Tu vois, tu grandis quand même nourri par la projection aussi des autres et de l'image que te renvoient les autres. Moi, mon souci principal, c'était non pas tant la confiance, c'était plus l'estime, parce que j'avais toujours tendance à me voir en dessous. Une chose qui m'a aidée vraiment, c'est d'aller me confronter à des niveaux au-dessus. Par exemple, quand je me suis mise à la basse, bah, évidemment, tu débutes, donc t'es forcément pas au top de ton niveau. Voilà. Bon, je suis nulle, quoi. Je suis nulle, j'ai pas un bon niveau, etc. Donc, toujours cette tendance-là. Et puis, bon, j'ai des amis qui m'ont dit « Non, mais vas-y, viens au bœuf, viens jouer et tout, etc. » Et là, de me confronter avec des personnes qui jouaient depuis 10 ans et qui prenaient plaisir à jouer avec moi, etc. et qui me renvoyaient au contraire quelque chose de positif, eh bien, moi, ça m'a vraiment redonné confiance en moi et surtout fait augmenter l'estime de moi. Donc, c'est pas facile à faire, mais c'est vraiment d'aller te confronter à des meilleurs que toi, parce que de toute façon, quoi, c'est même pas confronter, c'est aller à la rencontre de meilleurs que toi, parce que soit tu apprends de nouvelles choses puisqu'ils sont meilleurs que toi, soit toi, bah, tu te rends compte aussi de ton niveau et de ce que projettent les autres. Et j'ai eu aussi ce problème-là, j'ai pu connaître aussi ce problème-là dans l'entrepreneuriat. Donc au début, moi j'y allais, etc. Je me disais, ah non, mais je débute ou. Je connais pas grand-chose et en fait, je me rendais compte que je savais déjà plein de choses, j'avais déjà intégré plein de choses, j'avais déjà expérimenté aussi plein de choses dans d'autres domaines que l'entrepreneuriat, mais finalement, c'était la même chose. Voilà. Ça a vraiment fait diminuer mon syndrome de l'imposteur et ça fait augmenter l'estime de moi et la confiance que j'avais en moi parce que je me suis dit « Ah bah non, mais en fait, ça va. » Voilà. Ça va. Et puis, ensuite, là, ce qui m'aide aussi, notamment dans le cadre de mon travail, ce sont les retours. Ce sont les retours des personnes que j'accompagne. Bah, effectivement, ce sont les seuls juges, entre guillemets, de mon travail. Et Ben, vu que j'ai des bons retours, ben, effectivement, ça redonne confiance dans ce que tu fais, dans ta capacité, etc. Et d'où l'intérêt de passer à l'action, parce que sinon, vous n'allez pas avoir ça, tous ces petits moments. Et moi, je sais, quand je faisais de la musique, au-delà des concours avec mon groupe, ben, j'ai joué aussi en public, etc. Et d'avoir le retour du public, pas dans le sens c'était bien ou pas bien, mais juste, ah, j'ai passé un bon moment, je me suis amusée, ah, j'ai kiffé ça, etc. Eh bien, ça fait remonter la confiance en soi. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est fluctuant. Je ne dis pas que c'est tout le temps à 8-9. Hein. J'ai des moments où ça va être un peu plus bas. Après, ça descend jamais trop, trop bas. Mais voilà, et puis il y a des moments où je vais dire, ah, je suis à 12, je vais être en excès de confiance en moi. Voilà. Mais c'est vrai qu'aller me confronter vraiment, regarder aussi le retour des bonnes personnes. Voilà. Donc, notamment vos clients ou les personnes à qui vous vous adressez quand vous faites quelque chose, ce sont les seuls qui comptent. Ce ne sont pas vos proches qui n'ont pas le besoin, par exemple, auquel vous allez répondre. Ce ne sont pas les personnes qui ne sont pas, par exemple, sensibles à tel type d'art, à l'art abstrait, par exemple. Peu importe ce qu'ils disent, en fait, et ce qu'ils en pensent. Voilà. Et puis aussi, moi, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup détachée du résultat et de l'autre. Alors, c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, parce qu'effectivement, quand je fais de l'accompagnement, je travaille pour des personnes. Donc, effectivement, que le travail les a aidés, c'est flatteur et ça fait remonter ma confiance en moi. Mais il y a aussi un autre travail que moi, j'ai fait, c'est que je me suis détachée aussi un petit peu du résultat. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, si tu me demandais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ou tu vois ta place sur Terre, etc., j'aurais dit de contribuer. Bon, déjà, tout le monde a envie de contribuer. Je connais personne qui a envie d'être inutile sur Terre et pour les autres. Donc, voilà. Mais j'avais vraiment ce truc d'aider les autres ou de vouloir absolument, dans le pendant, on va dire, un peu pervers ou je sais pas comment le dire, mais presque imposer mon aide à l'autre. Vraiment ce côté-là, je veux aider, je veux contribuer, je veux, voilà. Et en fait, je me suis aussi détachée de ça. Et aujourd'hui, je fais juste ce que j'aime faire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et le fait de faire ce que j'aime faire, d'être qui j'ai envie d'être, etc., ça inspire et ça aide d'autres personnes. Mais je ne le fais pas dans le but d'inspirer ou d'aider d'autres personnes. Je le fais vraiment parce que ben, c'est aujourd'hui là ce qui m'anime. Voilà. Et rien que par le fait de faire quelque chose qui m'anime, je sais que ça, déjà, ça aide des gens, ça inspire des gens. Voilà. Et bon, bah, vu que j'aime faire ça, et bah, comme je disais tout à l'heure, je progresse. Et puis, bah, effectivement, je suis en mesure d'aider de plus en plus de personnes et de mieux aider les personnes en face de moi. Mais c'est vrai, je me suis aussi détachée de ce truc-là, de cette pression, quoi. Moi, ça me mettait une espèce de pression de me dire, bon, bah, voilà, je veux absolument aider ou il faut absolument que j'aide, que je sois utile, etc. Détacher de ça et juste non, en fait je fais ce que j'aime et je constate juste qu'en faisant ce que j'aime et en le faisant du mieux que je peux évidemment, eh bien ça aide des gens et effectivement ça fait plaisir d'aider les gens, mais c'est plus mon objectif.
Effectivement, dans l'estime de soi, comme tu le disais, souvent quand on manque d'estime en soi, c'est qu'on a tendance à se comparer. Et quelqu'un m'a dit un jour une phrase qui m'a beaucoup inspirée, c'est que quand on se compare, on connaît pas en fait le backstage de la personne. Ce qu'on voit, c'est son avant-scène, c'est sa scène. Et si ça se trouve, cette personne, elle a 10 ans, 20 ans d'avance sur nous. Et nous, ce qu'on voit, c'est sa scène et elle est belle, elle est magnifique, il est en représentation. Sauf que bon, on n'a aucune connaissance du backstage et de toutes les galères qu'il a pu avoir, de tous les coups durs, le manque de confiance, d'estime et autres. On voit juste le résultat d'aujourd'hui et on n'a pas vu tout le chemin parcouru. Et effectivement, se comparer, ben, c'est mort. à ne pas faire parce qu'on n'a pas justement l'historique de la personne en face de nous. On peut s'en inspirer, on peut l'admirer éventuellement pour justement la modéliser et récupérer un peu ses bonnes idées, ses bonnes pistes, etc. pour nous alimenter et produire, activer notre créativité, comme on disait en début d'épisode. Mais justement, ne pas se comparer parce que c'est ça qui tue l'estime de soi en général.
Exactement. Et puis, être plus doux avec soi-même. Parce qu'il y a la comparaison avec l'extérieur et la comparaison avec notre idéal fantasmé. Et je sais que moi, j'ai connu les deux. Et j'étais tellement exigeante vis-à-vis de moi-même que j'étais jamais satisfaite. Voilà, c'était jamais assez bien. J'étais jamais satisfaite de ce que je faisais. Et j'ai aussi appris à être plus douce avec moi-même et à célébrer justement. C'est les victoires, peu importe la taille des victoires, mais dire bah non, en fait, t'as de quoi être fière de toi, vas-y. De quoi je serai fière à la fin de ma journée? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois fière à la fin de ma journée? Un petit truc. Des fois, c'est pas beaucoup. Dire bon, bah ok, je serai fière de moi quand même. Quoi, mais enlever le quand même. Je serai fière de moi si j'ai fait ma demi-heure de ce que vous n'avez pas envie de faire. Voilà. Et Ça a complètement changé en fait ma manière de voir, la pression que je me mettais et ça m'aide beaucoup plus à avancer. C'est que le transformer au lieu de le mettre en obligation, en pression, etc. Eh bien, je me dis bon bah ok, si ça je le fais, franchement, je serai fière de moi.
Et ben la prochaine question, on y arrive. Dans chaque épisode, il y a la question tabou. C'est la question qui allie la confiance en soi et le thème de la sexualité. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi, là-dessus, par rapport à ton expérience?
Moi, je dirais que effectivement, il y a eu deux phases dans ma vie. Voilà. Et on pourrait croire que c'est par rapport à l'autre, mais non, en fait, c'était juste par rapport à moi-même et la confiance que j'ai en mon corps et l'acceptation que j'ai de mon corps. C'est-à-dire que il y a un moment où, bah, effectivement, j'avais du mal avec mon corps. Voilà. Moi, je n'ai pas une grosse poitrine. Alors voilà, bah, moi, je voyais mes copines en plus au collège, tout le monde avait de plus en plus de poitrine. Les garçons se moquaient allègrement des planches à pain ou je ne sais plus comment ils nous appelaient, etc. Voilà. Et c'est vrai que bah, petit à petit, tu développes des complexes par rapport à ton corps, à l'image, etc. Et c'est vrai que c'est difficile d'être en confiance avec l'autre dans l'intimité. Et et peu importe l'autre, en fait, qu'il arrive ou pas à vous mettre en confiance, mais il y a une partie quand même qui dépend vraiment de nous. Et là, c'est vraiment la confiance et, en moi par rapport à mon corps et l'image que je projette de mon corps. Et ce qui m'a vraiment aidée là-dessus, c'est une discussion que j'ai eue avec une personne qui était qui a été mannequin. Et donc là, moi, je la voyais avec un corps parfait, entre guillemets, quoi. Et elle me racontait, en fait, elle, les complexes qu'elle avait, elle, développés. Parce que elle a été soumise à des « Ah oui, mais t'as trop de poitrine. » Tu vois, tout l'inverse. « Ah, t'as trop de poitrine. T'es trop grande, t'es trop petite, t'es trop ci, t'es trop ça. Tes cheveux, ils sont pas scellés, ils sont trop… » Et ça déclencher chez elle des complexes qu'elle n'avait pas. Et en fait, en discutant avec elle et puis après avec d'autres femmes, eh bien, j'ai appris à accepter mon corps et à aimer mon corps. Et en fait, bah, plus tu aimes ton corps et plus tu arrives à te libérer aussi dans l'intimité et plus tu oses aussi faire des choses et parler, voilà, sans tabou avec ton partenaire dans l'intimité.
Oui, effectivement, la question des complexes, ça joue en général beaucoup sur la confiance en soi.
Exactement. Moi, il y a ça, il y a aussi le sport quand même qui m'a aidée à me détacher de mon corps. C'est-à-dire que à voir mon corps différemment, tu vois, presque comme un outil de travail, ou je sais pas, il y a une espèce de distanciation aussi avec le corps et que je ne suis pas le corps que je suis. J'habite mon corps, mais quoi, tu vois, une espèce d'idée comme ça, je ne saurais pas le préciser davantage, mais c'est vraiment ça. Et je sais que, par exemple, avec cette personne qui a été mannequin, on a eu aussi des discussions par rapport à bah, les photos sur Instagram, etc., toute cette partie-là. Et elle avait aussi cette image-là de se dire, bon, bah, OK, ça, c'est pas gênant pour moi ou c'est pas gênant pour moi, par exemple, d'avoir de défiler en maillot de bain ou d'avoir des photos comme ça sur le web parce que c'est pas moi. C'est juste l'image de mon corps. C'est l'enveloppe qui habite, qui abrite mon moi. Voilà. Et c'est vrai que le sport, en plus de ces discussions que j'ai pu avoir elle, avec elle et puis d'autres femmes aussi, parce que je me suis rendu compte qu'on avait toutes des complexes. Donc, voilà. Eh bien, le sport et donc prendre aussi confiance en son corps, etc., être plus à l'aise aussi dans son corps, ça m'a vraiment aidée dans l'intimité.
Effectivement, je prends l'exemple pour moi de la danse où on est pas en petite tenue, mais on est habillé en tenue moulante. On a un miroir en permanence en face de soi. Et effectivement, on a tendance à se décortiquer, à se regarder dans tous les sens. Et au final, c'est dans l'effort qu'on s'accepte. Dès qu'on a réussi une technique, un effort physique ou autre, et là, tout de suite, on s'est dit « Waouh, je l'ai fait, je suis contente et c'est avec ce corps que j'ai réussi ». Et ça aide à prendre confiance et à se dire « Mais il est super, mon corps, il m'a permis de réaliser de grandes choses ». Et on arrive presque à la fin de cette interview avec une dernière petite question, la question « girly ». Alors, pour ceux qui te voient, ils auront la réponse. Pour ceux qui ne te voient pas, il faut savoir que Cécile a de très beaux cheveux, de très longs cheveux, tout lisses, tout beaux. Et pour la question girly, c'est quelle est ta routine capillaire ?
Aucune. Tout simplement, en fait, pour ceux qui ne me voient pas, donc je suis de type asiatique, donc j'ai les cheveux lisses de naissance, donc je n'ai aucun mérite à avoir les cheveux que j'ai. Donc merci papa, merci maman. Mais j'ai pas de routine particulière et je pense que c'est aussi peut-être grâce à ça que mes cheveux sont aussi encore aussi bien. Je dis ça parce que je connais des filles, par exemple, qui sont beaucoup lissées les cheveux et du coup, qui les ont abîmés, etc. Donc, moi, je les laisse généralement sécher à l'air libre. Et pour l'histoire, moi, j'ai découvert le côté girly très tard. Moi, j'ai grandi qu'avec des grands frères, donc vous pouvez imaginer un peu l'ambiance à la maison. Et j'ai découvert ça quand je suis arrivée à l'internat au lycée. Ce côté girly, justement, s'échanger des crèmes, des soins, parler de ça, etc., parler épilation. Moi, j'en parlais pas trop avec mes frères. Et, c'est marrant, justement. Et tu vois, on parlait avec la question tabou du rapport avec l'image de la femme, du corps de la femme, etc. Et c'est aussi accepter que je suis certaine, aiment prendre vraiment soin d'elles et de leurs cheveux. Voilà. Aiment avoir des routines et c'est OK. Et continuez et faites-vous plaisir et allez-y. Et puis d'autres personnes comme moi, et je sais qu'il y a une injustice dans ce monde, qui ont des cheveux, tout simplement, parce qu'ils sont nés avec, et qui n'ont aucune routine, qui les sèchent à l'air libre, qui font un shampoing simple, et puis, qui arrivent à avoir des beaux cheveux, mais je suis désolée, j'ai aucune autre astuce à vous donner par rapport à ça.
C'est bien aussi. Comme quoi, le naturel, ça marche.
Exactement, mais pour l'anecdote, quand j'étais plus jeune, je les voulais boucler, parce qu'on veut toujours ce qu'on n'a pas.
Exactement. Ouais. Ouais, j'ai connu ça aussi.
Voilà.
Cécile, merci beaucoup pour ce moment partagé ensemble, pour tous tes conseils, pour toutes tes astuces, pour ta bonne humeur, ton sourire. Et avant de sonner le clap de fin, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Alors, vous pouvez me retrouver donc sur les différents réseaux sociaux au nom de cécile.dame, D-A-A-M. Et puis, sur mon site aussi, poulpe, avec un S, .fr. Voilà.
Ça marche, je mettrai toutes tes informations, tous tes liens dans la description pour qu'on puisse te retrouver facilement. Eh ben, merci beaucoup, Cécile, pour ce moment. J'espère que ça a été agréable pour toi de se prêter à ce jeu. Et vraiment un grand merci.
Merci à toi, Christelle. Merci à toutes celles qui sont restées jusqu'au bout et peut-être tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci pour ton énergie parce que tu rayonnes et tu pétilles. Voilà. Et merci pour tous les conseils aussi que toi, tu partages avec les farpettes. Je vous souhaite à toutes de vous aimer comme vous êtes, aussi farpettes que vous êtes, et puis de vous respecter et d'être fière de vous, tout simplement.
Merci beaucoup Christelle et Cécile pour cet échange autour de la créativité et de la confiance en soi, de trouver aussi l'activité dans laquelle on va vraiment pouvoir s'épanouir. Ce que j'ai vraiment une notion qui m'a marqué en écoutant votre échange, c'est ce que disait Cécile, je suis bonne dans mon activité parce que j'aime faire cette tâche. Et ça, je trouve que c'est une notion qui est super importante. C'est c'est ce que révélait Jacques Brel dans sa citation, le talent, c'est d'avoir envie. Et en fait, quand on a envie de faire quelque chose, on va passer beaucoup d'heures dessus, on va multiplier les essais, on va vraiment, même si on fait des petits échecs, c'est pas grave, on prend du plaisir à faire ce qu'on fait, donc on se complète, on avance, on progresse, et on sent même pas l'effort tellement la chose nous passionne. Et du coup, on va développer, sans le savoir et sans s'en rendre compte, on va développer une expertise, on va juste dire... D'ailleurs, les autres nous disent « Waouh, c'est super bien, là, ce que tu fais là-dedans, là, ton gâteau, je trouvais que c'était exceptionnel, comment t'as organisé ça, je trouve ça magnifique. » Et parfois, on peut se dire « Oui, j'ai fait ça comme ça, ça m'intéresse. » Sans se rendre compte qu'en fait, on a passé, limite, on a lu 10 livres sur le sujet, on a fait 3 stages dans ce domaine-là, et en fait... On a tellement parfois été habitué que les choses qui étaient simples, sans effort véritable, n'avaient pas de valeur, qu'on pense que tout ce qu'on a fait avec plaisir n'a pas de valeur. Alors qu'en fait, justement, souvent, c'est ce que notamment rappelle la notion de le concept d'ikigai, c'est que notre domaine, notre raison d'être, dans notre raison d'être, c'est souvent une activité, même presque pratiquement toujours une activité, qui nous passionne énormément. Et qui nous donne envie de le faire. Donc, vraiment, pour identifier nos zones de créativité, je trouve ça super intéressant de lister les activités qui nous font vraiment plaisir et dans lesquelles on va passer du temps à se perfectionner sans vraiment s'en rendre compte, tellement ça nous passionne. Donc, la première vraiment notion qui m'a touché, c'est quand Cécile a évoqué cette notion de talent et de plaisir. L'autre notion qui m'a beaucoup parlé aussi, c'est la notion de retour, de demander des retours des gens. Et donc, par exemple, Cécile parlait des retours de clients. Moi, ce que je sais, c'est que dans mon parcours, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les retours de personnes que je trouvais authentiques, chez qui je décelais vraiment un alignement et je me disais, la parole de ces gens-là, elle me touche parce que ces gens-là, je les trouve vraiment cohérents, alignés et je buvais leurs paroles. Et du coup, quand je leur demandais quelles étaient la qualité qu'ils identifiaient chez moi, je prenais cette qualité beaucoup plus au sérieux parce que ça venait de eux. Donc du coup, n'hésitez pas vraiment, quand vous rencontrez une personne dont la parole vous touche, n'hésitez pas à leur demander quelle qualité elle trouve chez vous. Comme ça, ça mettra en valeur quelque chose de fort que vous avez. Et comme la qualité va venir de cette personne, le mot, vous allez vraiment beaucoup plus le croire et le prendre en considération. Troisième point aussi qui m'a énormément parlé, c'est cette notion de quand Cécile a parlé la notion de accepter qui j'étais, que les choses ont changé quand j'ai enfin accepté qui j'étais. Et ça, ce que je trouve très très fort, c'est que en fait, le fait de s'accepter comme je suis, c'est notamment de reconnaître qu'il y a des choses qui nous font naturellement envie et il y a des activités qui ne nous passionnent pas du tout. Et ça, on voit tous, immédiatement, il y a tous un truc qui nous vient en tête. Moi, par exemple, ça va être le bricolage, les trucs manuels. Ça m'intéresse pas du tout. Et du coup, je suis nul parce que ça m'intéresse pas du tout et j'ai pas envie de creuser le sujet, en fait. Et en fait, le fait de reconnaître ça, ce qui est cool, c'est que ça va faire émerger la notion de complémentarité. Oui, je suis nul en bricolage. Du coup, les gens qui bricolent, ils me rendent un service, mais inouï. Et en parallèle, moi, par contre, je vais être vraiment super fort dans tout ce qui est écriture et je vais pouvoir rendre service aux gens quand ils vont avoir besoin d'écrire sur tel ou tel sujet. Et le fait de reconnaître ce qui nous fait envie et ce qui nous fait moins envie, et ben comme ça, quand une personne, par exemple, nous dira plus tard « Ah, Sylvain, là, le bricolage, pas terrible », t'as totalement raison. Par contre, dans tel domaine, là, je carbure et donc je vais pouvoir t'aider dans ce domaine et toi, tu vas pouvoir m'aider dans cet autre. Et du coup, ça va faire émerger la notion de complémentarité bien loin de la notion de compétition et de concurrence qui nous a tous fatigués avec les années. Et donc, c'est vraiment les notions clés qui m'ont marqué durant cet échange. Et par rapport à la notion de faire le premier pas, enfin, pour se lancer et faire une première action, moi, je vous recommande aussi la marche. Parce que des fois, même sans but, de se dire juste, bon, bah là, je suis un peu perdu aujourd'hui, de partir marcher, ça remplit différentes fonctions, notamment le fait de mettre de l'ordre dans son cerveau, de faire du vide, comme disait Cécile, l'importance d'avoir de la clarté en soi. Ça permet aussi, des fois, il y a des idées, comme on a fait le vide, des fois, il y a des idées qui nous viennent surprenantes. Donc, marcher. Et en plus, la marche est un peu du sport sans violence. Et ça permet, comme le disait Cécile aussi, d'avoir un rapport différent avec son corps, en mettant une activité physique, en voyant plus son corps comme un outil et à reprendre confiance. Et en plus, à la fin de la journée, on peut s'endormir avec une belle fatigue. Donc, premier pas, marcher. Ça peut être vraiment le top. Donc, merci beaucoup. Merci Christelle, merci Cécile. Et explosez le cadre.
Les enseignements de cet épisode en appelant à 3 étapes. En 1, listez les activités que vous pratiquez au cours d'une journée et qui vous donnent du kiff, du plaisir. L'idée est de repérer les tâches qui vous passionnent et pour lesquelles le temps ne compte pas. Ce sont ces fameuses zones de flow. Elles vous permettent de mieux vous connaître et de comprendre votre mode de fonctionnement. En 2, quand vous manquez de clarté, sortez marcher tranquillement pour vous aérer l'esprit et l'ordre reviendra. C'est en général après avoir fait le vide que les idées et les actions inspirées reviennent. Surtout, ne jugez pas vos idées, mais préférez les tester. Vous saurez à ce moment si vous les gardez ou pas. En 3, si vous voyez pointer l'ombre d'une peur face à un projet qui vous tient à cœur, surtout pas de panique. Demandez-vous ce que vous avez à perdre à passer à l'action. Et pour vous donner du love, posez aux personnes qui vous connaissent et que vous admirez dans votre domaine quelles qualités perçoivent-ils de vous. Et rappelez-vous que le premier pas est le plus difficile, alors planifiez-le dans votre agenda. Un grand merci pour nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Retrouvez l'épisode et tous ses conseils sur le site christelleattic.fr/podcast. Vous l'aurez compris, l'objectif de ce podcast est de vous donner beaucoup de contenu inspirant pour vous aider dans votre remise en question et vous faire sortir de votre zone de confiance. Si vous avez trouvé cet épisode enrichissant, je vous invite à 3 actions qui nous aident beaucoup dans notre mission. 1. Partagez cet épisode à une amie qui pourrait être inspirée par son contenu et ses conseils. En 2, vous abonnez au podcast sur votre plateforme préférée comme Spotify, SoundCloud ou autre pour recevoir les prochains épisodes. Et en 3, nous laissez un commentaire bienveillant pour nous encourager. Alors, keep cool et à bientôt !